l'interview. J'ai toujours souffert des lois de l'interview. C'est ce que vous dites, Jacques Derrida, dans une interview. Et d'ailleurs, maintenant, vous donnez l'hospitalité à des interviews dans vos livres, puisqu'on en retrouve un certain nombre dans Papier Machine, l'un des livres qui est publié aux éditions Galilée. Alors moi, j'ai envie de savoir ce qui vous trouble dans l'interview. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de silence? Est-ce que c'est parce que les mots restent en travers de la gorge, faute de temps ou de réunir les conditions nécessaires à l'exercice de la parole?
En tout cas, la question est bien, comme vous le dites, celle du silence. Non pas qu'il y en ait trop, quelquefois il n'y en a pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre la parole proférée et le temps du silence, il n'y a pas le rapport que j'essaie de cultiver, en tout cas que je m'approprie mieux quand j'écris ou quand je parle à un rythme que je peux déterminer moi-même, par exemple dans l'enseignement. Je suis quelqu'un qui pendant des décennies a beaucoup parlé et a essayé de distribuer le temps de parole et le temps de silence dans des séminaires, dans des situations où justement la parole était interrompue selon un rythme et des injonctions différentes de celles de l'interview. Alors, en même temps, il y a dans l'interview quelque chose qui m'inquiète, mais qui me séduit. C'est-à-dire qu'il y a une interruption, quelquefois un art de l'interruption, quelquefois une violence de l'interruption, qui, dans le meilleur des cas, est une chance donnée à la parole, à l'improvisation. Quelquefois, non. C'est chaque fois une expérience nouvelle. Et c'est cette surprise qu'à la fois, je suppose que, comme tout le monde, qu'à la fois j'aime et je crains.
Mais avec le temps, ça n'a pas changé, vous continuez.
Non. Je n'ai pas appris l'art de l'interview. Je n'ai pas fait l'apprentissage de la chose. J'ai dû faire l'apprentissage d'autre chose, par exemple de la parole enseignante jusqu'à un certain point. Mais l'interview est chaque fois quelque chose à quoi je m'expose dans le dénuement et donc dans, je ne veux pas trop y mettre trop de pathos, mais dans l'inquiétude, sinon dans l'angoisse. Parce que les interviews auxquelles je suis exposé ou livré sont toujours des interviews au sujet de textes qui, eux, obéissent à un tout autre régime. S'il s'agissait d'interviews sur des choses qui ne sont pas encore écrites, ou des faits ou des expériences qu'on raconte dans une conversation, ce serait sans doute différent. Mais je sais que les interviews qu'on me propose, le prétexte en est toujours un livre écrit dans une langue et à un rythme et selon des normes totalement hétérogènes, celles de l'interview. Donc il y a une traduction et une pédagogie aussi, puisque dans l'interview radiophonique en particulier, on parle la nuit à un auditoire plus indéterminé que jamais, composé de gens dont on se dit qu'ils vous entendent pour la première fois ou ils ne savent rien de ce que vous écrivez. Et donc il faut s'adresser à eux tout en s'adressant à d'autres qui sont plus proches, plus prévenus. Alors je sais bien que cette indétermination des destinataires est la loi partout, même dans un séminaire, même dans son propre séminaire, il y a des gens, on ne sait pas ce qui se passe du côté des destinataires. Néanmoins, on a une image, une silhouette idéale du destinataire, assez précise finalement. Ça n'est pas du tout le cas de l'interview radiophonique. Donc là, alors, on parle dans la nuit. Évidemment, je vous parle. Je sais que je peux régler ma parole sur ce que j'imagine être votre attente. Et donc, vous, naturellement, de ce point de vue-là, j'essaie d'oublier que nous parlons en ce moment pour des gens qui, comme je le fais moi-même souvent, dans ma voiture, la nuit très tard, et tournent le bouton et écoutent, voilà, Dieu sait qui.
Est-ce que la nuit a son importance?
Oui, alors je crois que, justement, elle offre l'hospitalité d'un certain silence, justement. Le travail est arrêté, il y a un autre temps, le temps de la nuit, qu'on soit en voiture, comme c'est souvent mon cas quand j'écoute votre émission, rentrant très tard le soir chez moi, par exemple, ou chez soi, la nuit est bonne à la parole. Pas la nuit est en quelque sorte accueillante à la parole radiophonique, beaucoup plus que n'est le jour, à cause des distractions, du travail, de tout ce qui peut parasiter une parole diurne. La parole nocturne a plus de chance, je crois. Mmh.
L'interview n'a rien à voir avec le dialogue, bien sûr, pour reprendre le genre que vous avez pratiqué avec Elisabeth Roudinesco dans cet autre livre intitulé « De quoi demain ?» et qui est coédité par Fayard et Galilée. Alors là, vous avez fait des réponses orales qui ont été ensuite réécrites.
Oui. Là, c'est un tout autre genre. Hein. Naturellement, il participe pour une part, dans une certaine mesure, de l'interview, dans la mesure où Elisabeth Roudinesco, qui a pris l'initiative de ce dialogue, était en quelque sorte la maîtresse du jeu, c'est-à-dire que c'est elle qui orientait l'entretien, posait les questions, rythmait la chose. Donc il y avait une part d'interview, mais pour une autre part, naturellement, c'était un dialogue, c'est-à-dire que chacun de nous parlait aussi longuement, faisait porter sa question, sa réponse, par une histoire que nous nous racontions, histoire croisée, histoire intellectuelle, mémoire des 10, 15, 20, 30 dernières années. Et donc, c'était un vrai dialogue de ce point de vue-là, avec la part d'accord, la part de désaccord, quelquefois frontaux, quelquefois virtuels ou obliques. Et puis, comme vous le soulignez il y a un instant, la chose étant totalement improvisée dans un premier temps et enregistrée, nous avons eu la possibilité d'y revenir, en essayant toutefois de garder à l'écriture de ces dialogues le ton et même le plus souvent le rythme de la première improvisation. Dans le livre, c'est très inégal, il y a des chapitres qui sont restés à peu près tels quels, à l'exception de quelques petites interventions grammaticales ou stylistiques, et il y a d'autres chapitres, par exemple celui sur la peine de mort, qui ont été réécrits de façon assez élaborée. En tout cas, j'ai réécrit une bonne partie de ce que j'avais improvisé là. Donc le rapport entre l'écriture et l'improvisation est très inégal à l'intérieur du livre.
En tout cas, la difficulté de l'exercice que nous allons pratiquer ce soir, Jacques Derrida, qui est celui de l'interview, hein, parce que c'est une interview ici, ce n'est pas un dialogue, ne tient pas seulement au genre interview, mais aussi à ce que vous faites, à ce que vous écrivez, parce que la difficulté, elle est là aussi. Par exemple, dans un autre livre que nous n'avons pas encore cité, « L'université sans condition », qui est un livre qui paraît également chez Galilée ces jours-ci, vous dites « Je ne sais pas si ce que je dis est intelligible, si cela fait sens. Est-ce que c'est de la philosophie ou de la littérature ou du théâtre ?» Vous vous posez à vous-même toutes ces questions.
Je pose ces questions à mon auditoire, en vérité. À l'origine, il s'agit d'une conférence faite dans une université, à Stanford, en anglais d'ailleurs, et où je m'interroge sur à la fois l'essence et la vocation de l'université et sur les problèmes que l'université rencontre aujourd'hui, dans ses rapports avec l'État, dans ses rapports avec le marché, dans ses rapports avec toutes sortes de corporations, la question des disciplines, la question des humanités. Hein, le thème principal, c'est celui de l'avenir de ce qu'on appelle les humanities aux États-Unis, les humanités, c'est-à-dire un ensemble de disciplines dans lesquelles on range aussi bien la philosophie que la littérature, la linguistique, la psychanalyse. Etc. Et ayant proposé un certain nombre de choses, de thèses ou d'hypothèses, à la fin, je demande à mes auditeurs si ce que j'ai dit avait du sens, parce que par moment, on pourra peut-être, si vous le souhaitez, s'approcher du contenu de ce que je dis, par moment, mes propositions sont assez provocantes, dans la mesure où je pose que l'université doit être sans condition, donc doit se voir reconnaître inconditionnellement le droit de poser toutes les questions qu'on peut juger nécessaire de poser, et non seulement des questions théoriques, mais des questions pratiques, politiques, performatives, et par exemple le sujet des humanités, le sujet de l'histoire de l'humanisme, de l'histoire des humanités, de l'histoire de la figure de l'homme. Et à un moment donné, je suggère dans ce que j'appelle une profession de foi. Alors, j'essaie d'analyser ce que c'est qu'une profession de foi, ce que c'est qu'une profession. C'est une histoire de la profession, une histoire du travail, de ce qui arrive au travail dans le monde d'aujourd'hui. Et à un moment donné, je mets en question la distinction maintenant accréditée et, à mes yeux, fondamentale entre des énoncés de type théorique ou constatif et des énoncés performatifs, c'est-à-dire des paroles qui, dans l'enseignement, font arriver quelque chose, produisent des événements. Ce qu'on appelle un performatif, c'est donc un énoncé qui fait ce qu'il dit et qui produit l'événement dont il parle. Alors, après avoir soutenu pendant assez longtemps, presque tout le temps de cette conférence, cette distinction entre constatif et performatif, l'avoir fait travailler, à la fin du trajet, j'explique pourquoi cette distinction me paraît limitée dans sa pertinence et pourquoi les événements, s'il y en a, et je pense qu'il doit y en avoir dans l'université à venir, mettent en déroute le performatif lui-même. Le performatif, c'est un énoncé qui produit un événement dans une situation où des conventions assurent que celui qui produit l'énoncé a qualité pour le faire, a le crédit pour le faire. On cite tout le temps la situation d'un président d'assemblée qui a le droit de dire « j'ouvre la séance ». Et naturellement, il a le pouvoir de produire cet événement dans la mesure où le titre de président de séance lui est reconnu par convention. Et je suggère que dans cette mesure-là, dans la mesure où une convention assure un pouvoir, l'événement produit est limité, il est prévisible, il est contrôlé, il s'inscrit dans un horizon d'attente, alors que l'événement dont je parle, un événement digne de ce nom, doit être absolument imprévisible, et par conséquent, au-delà du pouvoir, au-delà du « je peux », et par conséquent mettre en déroute le performatif. Et avançant cette proposition, je demande, est-ce que ce que je dis ici relève encore d'un discours académique? Est-ce que c'est un séminaire? Est-ce que c'est un théorème, un mathème, une proposition de savoir? Ou est-ce que c'est autre chose? Et comme au cours du trajet, j'ai aussi proposé la question de ce qui est arrivé au concept d'homme dans notre modernité, j'ai aussi fait des références, à mes yeux, indispensables, à ce que j'appelle l'œuvre, l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire en particulier, ou l'œuvre théâtrale, je demande donc à mon auditoire, est-ce que ce que je viens de dire est un discours d'enseignement théorique, un séminaire, une opération de savoir, une opération qui consiste à dispenser un savoir, comme on le dit souvent de l'enseignement, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de la littérature, du théâtre, de l'enseignement ou non? Et ça n'est pas un artifice de rhétorique. Je crois qu'au bout du compte, si ce que je dis n'est pas totalement gratuit, le genre dont relève ce discours ne correspond à aucune des catégories aujourd'hui accréditées dans ces différents champs, alors qu'il s'agisse bien d'un séminaire, d'une conférence, ou bien d'une œuvre littéraire.
Oui. Dans Papier Machine, vous posez un peu différemment la même question, d'ailleurs Jacques Derrida, en posant cette question, qu'est-ce que cela veut dire d'être un philosophe français aujourd'hui? Et là, vous constatez que certains tiennent vos textes pour trop littéraires, ou même pour philosophiquement impurs, ce qui nous rappelle le titre du livre de Jean-Noël Vuernet, c'est la philosophie impure.
Oui, là je réponds là aussi à une question, c'est dans une interview. C'est d'ailleurs une très bonne question. Qu'est-ce qu'un philosophe français? Pour tenter d'y répondre, d'abord, si je me souviens bien, on fait une autre interview sur la même question. Là, je vais encore improviser. Si je me souviens bien, je rappelle qu'on ne poserait pas une telle question à un savant, par exemple. Oui. C'était improbable. On ne dirait pas à un mathématicien, qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien français ou qu'est-ce que c'est qu'être un physicien français. Donc, si on pose cette question, c'est parce qu'on suppose qu'entre la philosophie ou la profession de philosophe ou la pratique philosophique et l'appartenance nationale et la pratique d'une langue nationale, il y a un rapport qui n'est pas accidentel. Et que donc, le fait qu'on est français et qu'on parle français, qu'on écrit en français, doit affecter à la fois la figure du philosophe, ce que je crois, et son discours, et non seulement la forme, mais le contenu de son discours. Et je crois que c'est vrai dans une certaine mesure. Mmh. Alors, c'est cette mesure que j'essaie d'analyser en rappelant qu'en principe, dans la grande tradition philosophique, la philosophie n'a pas de nationalité, qu'elle est définie par sa prétention à l'universalité, c'est-à-dire à excéder immédiatement les frontières du pays, de la langue, de la citoyenneté, et même des institutions nationales auxquelles le philosophe de la modernité appartient, parce que la plupart des philosophes, depuis le XIXe siècle en tout cas, sont des professeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui appartiennent à des institutions toujours nationales, marquées dans une certaine mesure par leur nationalité. Donc, ayant rappelé que la philosophie, en principe, prétend excéder les frontières nationales, néanmoins, il n'y a pas de philosophie sans langue naturelle, il n'y a pas de philosophie qui se produise dans une langue formelle, totalement formalisée, c'est-à-dire universelle ou mathématisée, et que donc il y a eu, dès le début, entre un concept philosophique et un mot de la langue, une affinité, un lien qui est irréductible. Et donc, j'essaie de marquer en quoi un philosophe français, aujourd'hui, est marqué non seulement par sa langue, mais par l'histoire des institutions auxquelles il appartient, par l'histoire d'une tradition. Et j'essaie de marquer en quoi, dans mon cas, c'est vrai aussi, bien que mon explication avec ces choses-là, avec l'institution, la citoyenneté et la langue, soit un peu, turbulente, en tout cas questionnante.
Mmh. Vous ne savez pas si une langue originaire peut influencer une pensée ?
Influencer, je crois qu'inévitablement. Je crois que les premiers concepts philosophiques se sont produits dans une langue, indissociablement, hein, la langue grecque, par exemple. Mais ce n'est pas seulement la langue, ce n'est pas seulement le lexique ou la syntaxe, c'est l'appartenance à une culture, à un champ politique, à un champ institutionnel. Mais évidemment, ces choses sont très compliquées parce que, à l'intérieur de ces racines nationales, la vocation universalisante est au travail. Et donc, sans cesse, le travail du déracinement accompagne en quelque sorte l'héritage de la langue et de l'appartenance.
Donc être philosophe, c'est de toute façon se mesurer à l'urgence de questions universelles. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient dans les deux livres, d'ailleurs dans Papier-Machine comme dans L'Université sans condition. Je laisse un peu de côté pour l'instant le dialogue avec Elisabeth Roudinesco de Quoi demain. C'est la question de la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation.
Oui. Je crois que cette question traverse les trois livres de manière différente chaque fois, mais elle traverse tous ses écrits, en vérité tout ce qui, avec d'autres, m'inquiète en permanence. Ce mot recouvrant, souvent sans concept rigoureux, beaucoup de choses très différentes. Et donc, mon premier geste, c'est d'appeler à la vigilance ou à la méfiance à l'égard des abus rhétoriques.
Certains parlent de globalisation, par exemple.
Voilà, alors, c'est ça. Alors, une des premières choses que je rappelle, c'est que globalisation et mondialisation, ça n'est pas exactement la même chose. Globalisation est un mot qui a été accrédité aux États-Unis d'abord. En Allemagne, c'est aussi, on dit aussi Globalisierung, qui fait référence donc, comme son nom l'indique, au globe terrestre, sans marquer en tout cas dans le mot ce que monde doit à une histoire très très chargée, une histoire sémantique extrêmement lourde, extrêmement chargée, extrêmement grave. Le monde, ça n'est ni le globe, ni le cosmos, ni l'univers. Et donc, j'essaie de rappeler que le monde, la notion de monde, ou mundus, ou de Welt en allemand, fait référence à un devenir chrétien, c'est-à-dire paulinien en fait, du cosmos grec, au moment où le cosmos, dans la langue chrétienne paulinienne, désigne une certaine humanité, l'ensemble des hommes comme prochains, fils de Dieu, ou frère et fils de Dieu. C'est-à-dire que le mot de monde a une charge sémantique beaucoup plus déterminée, déterminante, que celle de globe. Et je crois que partout où on parle aujourd'hui de mondialisation, qu'il s'agisse du droit international et des tensions entre le marché et le droit international, partout où on parle justement de l'humanité, de crimes contre l'humanité, notion dont je rappelle qu'elle a été chose bien connue, mais qu'il faut toujours rappeler que c'est un concept moderne, un performatif juridique justement, qui date de 1945 et qui a déterminé très largement une grande part de l'espace géopolitique d'aujourd'hui, l'espace juridique et géopolitique d'aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas penser le crime contre l'humanité sans se référer à une notion de monde qui est marquée par une tradition européenne, c'est-à-dire à la fois grecque et chrétienne, surtout chrétienne. Et donc, naturellement, quand dans l'Université sans conditions, je relis cette question du monde à celle de la figure de l'homme, de la définition de l'homme, de la redéfinition, réélaboration du concept d'homme, et donc d'humanité, des humanités, de l'enseignement des humanités, et que je relis cela à l'histoire du droit international, du crime contre l'humanité, et à l'histoire du travail, à ce qu'on appelle souvent aujourd'hui la fin du travail, je me réfère au livre de Rifkin sur la fin du travail, chaque fois, naturellement, je crois nécessaire de rappeler cette histoire, de rappeler la mémoire historique de tous ces concepts.
Est-ce que l'université sans conditions peut tenir tête à la mondialisation, faire de la résistance?
Alors, je ne sais pas si elle peut le faire de façon effective, si elle en a les moyens. Là, mon souci dans l'université sans conditions, c'est de rappeler ce qu'est, en principe, l'idée de l'université. Celle, justement, d'une liberté sans conditions, du droit à dire tout ce qu'on a à dire, à poser toutes les questions qu'on veut poser, sans aucune espèce de limitation. C'est-à-dire la liberté de l'université à l'égard de tous les pouvoirs, le pouvoir de l'État, aussi bien des pouvoirs économiques, le pouvoir du marché, et cette question n'est pas une question abstraite. Vous savez que les universités aujourd'hui, notamment dans le monde occidental, sont de plus en plus dépendantes du marché, des corporations, des grandes concentrations de capitaux. Donc, indépendance inconditionnelle de l'université à l'égard du pouvoir d'État, du pouvoir économique, du pouvoir religieux, de tous les pouvoirs idéologiques. Mais naturellement, cette liberté, cette inconditionnalité est une inconditionnalité de principe. Mais en fait, nous savons bien que cette inconditionnalité n'est pas donnée, que l'université n'a pas de moyens propres et qu'elle dépend, en fait, qu'elle est conditionnée, en fait, par l'État, par le marché, par des idéologies, des institutions de toutes sortes. Ce qui fait que cette inconditionnalité, en fait, s'accompagne d'une sorte de faiblesse radicale, d'un impouvoir. Et la question est de savoir comment, à partir de ce lieu d'impouvoir, de faiblesse radicale, comment, par quelle stratégie, avec quelles alliances, on peut résister à un grand nombre de pouvoirs dont je viens de rappeler les grandes figures, l'État, la religion, le marché, etc. Les médias, j'ai oublié les médias, mais il faut les rappeler, parce qu'elles sont là, naturellement, des partenaires essentiels de toutes les instances que je viens de nommer. Alors, la difficulté je dis bien la difficulté, une difficulté redoutable, c'est de penser ensemble cette inconditionnalité et cette faiblesse. En général, on associe le droit inconditionnel à faire quelque chose à un principe de souveraineté. Et on est tenté de dire, alors l'université doit être souveraine. Mais justement, la souveraineté est quelque chose que j'essaie d'analyser, de déconstruire, et comme histoire justement théologico-politique. Et donc j'essaie de penser, et ça n'est pas facile, de penser une inconditionnalité sans souveraineté, c'est-à-dire sans pouvoir. Donc une situation où la pensée, ce que j'appelle la pensée, ou l'œuvre universitaire, peut s'opposer sans force à tous les pouvoirs. C'est à la condition que cette pensée soit possible et puisse se dire et frayer son chemin que l'université serait fidèle à ce que j'appelle sa profession de foi initiale, son engagement initial, à l'idée de l'université. Mais évidemment, il ne suffit pas de le dire. Ce livre est à la fois très abstrait, en même temps, il fait partie d'un combat dans lequel, avec d'autres, je suis engagé depuis longtemps. Ça passe par ce que j'appelle, en un sens non religieux du terme, la profession de foi d'un professeur. Oui.
Et le refus de céder à quelque hégémonie que ce soit.
Voilà. Et évidemment, pour revenir à votre question sur la mondialisation, ce qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, c'est souvent un champ de conflit pour l'hégémonie. Souvent, on abuse de ce mot en laissant croire que c'est fait, que la mondialisation existe, c'est-à-dire que le marché est ouvert à tout le monde, que les frontières tombent, que la communication est assurée de transparence et de partage universel, alors que nous savons bien, et je le rappelle très vite dans l'Université sans conditions, nous savons bien que ce n'est pas le cas, que la mondialisation n'existe pas, que l'espace public dit mondial est très hétérogène, plus inégalitaire que jamais, que d'énormes masses de peuples ou de populations humaines sont privés de tout accès, non seulement aux ressources de la communication, mais de tout accès aux richesses, à la médecine, de tout accès à l'enseignement. Et en particulier, c'est un motif que je privilégie dans cette petite conférence, au travail. Mmh. En général, on parle justement Rifkin parle d'une fin du travail, et dans un livre fort intéressant d'ailleurs qui porte ce nom, La fin du travail, il analyse le rythme de l'histoire du travail, les révolutions du travail, et des révolutions industrielles. Il dit qu'au 19e siècle, par exemple, ou au 20e siècle, il y a eu des transformations techniques et industrielles qui ont mécanisé le travail et limité le nombre de travailleurs, mais en laissant une part assez importante, il parle de la révolution machine à vapeur, d'électricité, enfin, mais qui laissait régulièrement un espace assez important pour l'emploi. Alors que la révolution en cours, l'informatisation, les télécommunications, Internet, email, le télétravail, la possibilité de travailler à distance, tout cela ne laisse plus d'espace suffisant pour absorber la masse de travailleurs qui sont rendus inutiles par ce progrès-là. Et alors ce que je rappelle, c'est une évidence massive, mais qu'il faut sans cesse se rappeler, c'est que aujourd'hui, jamais autant qu'aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes étaient privés d'un travail auquel ou elles aspiraient, ou bien travaillaient trop pour un salaire décent. Et que donc, il ne fallait pas abuser de cette incontestable transformation du travail, pour en conclure que la mondialisation avait fait son œuvre et qu'on assistait à une fin du travail, dont on trouve d'ailleurs le thème présent déjà chez saint Augustin, dans un sens encore justement religieux. Et je rappelle les travaux de mon collègue Le Goff qui montre comment au Moyen-Âge déjà, il y avait l'action du temps de travail se posait, où il y avait des gens qui demandaient un temps plus long de travail et d'autres un allègement du temps de travail. C'est une histoire qui a commencé il y a déjà très longtemps. Donc j'appelle à la méfiance à l'égard des usages et des abus de ce concept, de ce mot, souvent plutôt qu'un concept de mondialisation.
Mais est-ce que d'une certaine façon, enfin, j'imagine que la question vous a été posée mille fois depuis quelque temps dans le monde entier, parce que vous vous déplacez beaucoup pour faire des conférences, donner des cours, notamment aux États-Unis. Est-ce que les leurres de la mondialisation ne nous ont pas été cruellement rappelés le 11 septembre ?
Oui, bien sûr, bien sûr. En même temps que ce qui s'est passé le 11 septembre, et vous voyez bien qu'on ne sait pas comment nommer cette chose. Chaque fois que j'ai à en parler, comme nous tous, nous avons beaucoup à en parler, en privé ou publiquement, je commence par faire remarquer que, au fond, appeler cette chose le 11 septembre, lui donner le nom de sa date, c'est au-delà de l'économie de l'abréviation, c'est reconnaître que nous n'avons pas de mots adéquats, de descriptions appropriées pour cette chose, pour cet événement, comme on dit, qui n'est ni un acte de guerre au sens classique, qui est un acte de terrorisme, mais en tant qu'acte de terrorisme, point si nouveau, pas aussi nouveau qu'on a voulu le dire. Pas. Donc, ce qui arrive à l'intérieur du terrorisme est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Donc, quand on dit 11 septembre, ce que les Américains appellent souvent maintenant 911, parce que 911, c'est aux États-Unis le numéro des appels d'urgence. Pas. Donc, ce qui est arrivé le 11 septembre, sur quoi il y aurait beaucoup à dire, quant à la nouveauté, quant à la non-nouveauté, atteste en effet, qu'une certaine mondialisation n'est pas achevée, mais en même temps atteste que sans une espèce d'effet de mondialisation, cette chose-là n'aurait pas été possible. C'est-à-dire sans, par exemple, une nouvelle façon de passer les frontières, sans une haute technologie hyper sophistiquée, sans la possibilité d'atteindre une puissance jusqu'ici invulnérable à partir de ses propres armes, de ses propres avions, quelquefois de ses propres formations, puisque les agents de cet acte vivaient aux États-Unis, avaient été formés pour une large part dans des pays occidentaux. Donc tout cela, en même temps, cette forme de terrorisme, hein, si le terrorisme n'est pas nouveau, cette forme de terrorisme est nouvelle, entre autres traits, parce que une certaine mondialisation l'a rendu possible. Qu'il s'agisse de la langue, de la technique, d'un terrorisme qui n'a pas eu besoin d'utiliser autre chose que les armes, les avions et la formation du pays visé. Et puis, ça a atteint des institutions et des symboles de la mondialisation du marché, par exemple, le World Trade Center, d'une grande puissance militaire et politique, le Pentagone. Donc je crois qu'en même temps, c'est un événement qui rappelle à la fois que la mondialisation n'a pas encore eu lieu et qu'en même temps, de notre point de vue, elle est en marche. Hein. Et sans une certaine mondialisation, ça n'aurait pas été possible. Ça veut dire qu'il faut raffiner ce concept, qu'en lui-même, il nous importe peu, que ce qui est urgent, c'est d'articuler et d'analyser ce concept et l'usage de ce concept.
Alors, pour cette interview, Jacques Derrida, nous sommes partis de vos préventions à l'égard de l'interview, et pourtant, il vous arrive de vous soumettre à ces lois. Vous l'avez fait, par exemple, avec Ornette Coleman. Vous l'avez rencontré à l'occasion d'un concert à la Villette en 1997, Et puis, vous avez eu envie de vous entretenir avec lui. On a pu lire l'interview, d'ailleurs, dans Les Inrecuptibles, cette année-là. Vous avez parlé, notamment, de l'improvisation, qui n'est rendue possible que par une trame très précisément préécrite. Est-ce que cette improvisation n'est pas un genre que vous pratiquez aussi beaucoup vous-même dans vos conférences, qui deviennent ensuite des livres ?
En effet, quand je rencontre Ralph Kolman, nous avons eu d'abord un entretien, et puis ensuite il m'a demandé
d'intervenir dans un concert.
Participer avec lui à un concert qu'il donnait à la Villette. Et là, vous savez que c'était un grand artiste, un grand génie de l'improvisation, c'est l'inventeur du free jazz. Pas ? Mais évidemment, l'improvisation ne se fait pas sans règles. Et donc, dans l'expérience que j'ai partagée avec lui, à sa demande, à son invitation, j'avais préparé un texte, étant entendu que lui improviserait alors que je dirais ce texte sur la scène. Ce qui s'est passé, mais nous avons d'abord répété sans répéter. Nous avons fait quelques essais où il y avait à la fois de l'improvisation et en même temps de la répétition. Naturellement, ça ne s'est pas si bien passé, puisque dans la salle, certains auditeurs ont très mal réagi au fait que quelqu'un venait ici parler, alors qu'ils étaient venus pour écouter Ornette Coleman. Mais au total, c'était une expérience dont je garde un très bon souvenir, qui, d'ailleurs, en dehors de cette minorité de chahuteurs, a été, pour Ornette Coleman et pour moi et pour d'autres, de moments qui a compté. Et ce que j'ai essayé de dire à la fois dans le texte que j'ai lu à ce moment-là et dans l'entretien entre nous, c'est que dans l'improvisation, il y a, et surtout dans le cas du jazz, il y a des règles de la répétition et de l'événement. Et qu'il faut que l'œuvre, justement, l'œuvre improvisée, ait une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient. Dans mon expérience la plus habituelle, c'est-à-dire dans l'enseignement et dans les conférences, j'improvise peu, finalement. J'écris beaucoup. En général, quand je fais une conférence, je l'écris d'avance. Même ce que j'enseigne est en général écrit. Mais à partir de ce qui est écrit, je peux, soit en m'interrompant ou en demandant qu'on m'interrompe, soit au cours des discussions, improviser. Et la liberté de l'improvisation, dans le meilleur des cas, sa fécondité, est aidée par le travail de préparation. Je ne crois pas qu'il y ait de pure improvisation. C'est-à-dire, quand on improvise délibérément, en quelque sorte, on fait jouer ou on laisse jouer des schèmes déjà préparés ou virtuellement prêts, n'est-ce pas ? Des schèmes logiques, des schèmes pédagogiques, des syntaxes, des grammaires. Etc. Et donc, l'improvisation comme opération, d'une certaine manière, puise à un fond déjà disponible. Mais il y a des cas où, et je n'appellerai pas ça improvisation, où quelque chose arrive, vous arrive alors que vous parlez, et en quelque sorte, mettant votre maîtrise en défaut ou en déroute. Et là, je ne peux pas dire qu'on improvise, à ce moment-là, ça arrive. On s'entend dire des choses, on se met à penser quelque chose à quoi on n'était pas soi-même préparé, et à ce moment-là, il s'agit d'un événement que l'improvisation a, en quelque sorte, accueilli, mais qui ne relève pas de l'improvisation. Cet événement qui vient nous affecter n'est pas un acte d'improvisation. C'est ce qui nous tombe dessus. Un événement, ça tombe dessus. On ne le voit pas venir devant soi. N'est-ce pas ? Il ne vient pas devant soi. Il n'y a pas d'horizon pour l'événement. Il vient d'en haut, verticalement, ou de derrière, ou de dessous. Mais on ne le voit pas venir. L'improvisation, comme activité en tout cas, c'est un effort quand même pour inventer quelque chose à partir d'un fond déjà identifié, reconnu, disponible. Et c'est une manière aussi de tenter de maîtriser l'événement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je dirais, qu'il s'agisse de jazz, qu'il s'agisse de paroles philosophiques, c'est l'événement, malgré la préparation, et malgré l'improvisation même.
En tout cas, je vous ai demandé quelle musique vous vouliez entendre dans l'émission de ce soir, et vous n'avez pas hésité une seconde, vous avez répondu Ornette Coleman. Avec Ornette Coleman, auquel je faisais allusion il y a un instant, Jacques Derrida, vous l'interrogez sur son utilisation des nouvelles technologies dans sa musique. Et j'ai envie de vous renvoyer la question sur quelle est l'influence des nouvelles technologies sur votre musique à vous. Comment interviennent-elles et plus généralement, quelles conséquences leur développement a-t-il sur le livre tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui, puisque c'est l'un des thèmes qu'on retrouve dans Papier Machine, mais qui vous préoccupe depuis très longtemps. Depuis, on peut dire, de la grammatologie, qui date de 1967, où vous abordiez cette question de la fin du livre.
Oui. Là, je distinguerai justement entre les thèmes qui m'intéressent depuis toujours, si on peut dire, toutes les questions théoriques que peuvent poser les nouvelles technologies, je les ai au moins approchées dans de la grammatologie, et de façon très précise aussi dans d'autres textes, comme dans la carte postale, il est question déjà des ordinateurs, du e-mail, de toutes ces nouvelles technologies dont la problématique est élaborée comme problématique. Bon. Et ça n'a jamais cessé depuis, et j'ai constamment essayé de prendre en compte ces événements de la technoscience et des télétechnologies, de les prendre en compte aussi sérieusement que possible dans mon travail, pour faire vite, philosophique. Mais ce qui est ainsi autant que possible intégré à mon travail théorique ne l'a pas été de façon égale et au même rythme dans mon usage de ces techniques, dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus résistant dans la pratique, beaucoup plus lent dans mon usage de ces machines que dans le traitement théorique que j'en ai tenté. C'est-à-dire que c'est très lentement que je suis passé de l'écriture manuelle, purement manuelle, à la machine à écrire, la petite machine à écrire mécanique, puis de la machine à écrire mécanique à la machine électrique. Carte postale, j'ai, en 79, c'est le moment où je suis passé de la machine à écrire mécanique à la machine à écrire électrique. Et pour l'ordinateur, c'est encore beaucoup plus lent. Bien que j'ai parlé de l'ordinateur et du e-mail et des logiciels très tôt, dans la carte postale par exemple, c'est seulement en 86 qu'avec beaucoup de résistance et de lenteur et de peine, je me suis approprié ces machines. Bon, alors, comme tout le monde, comme beaucoup de ceux qui nous entourent, je me sers d'ordinateur, je me sers d'un portable, je me sers pas du e-mail par exemple. Je ne suis encore pas arrivé là, ni de l'Internet. Alors, ça ne m'empêche pas d'en tenir compte dans ce que j'écris dans ce domaine-là, mais je reste très en retard.
Mais l'ordinateur, vous dites que vous ne pouvez plus vous en passer maintenant et que vous n'arrivez même plus à vous rappeler ou à comprendre comment vous avez pu faire auparavant sans lui.
C'est vrai. Je suis très dépendant de ces machines-là, même si je m'en sers de façon primitive et maladroite,